Massé, PLM et tous les compagnies, bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, bah, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh non, de Dieu, bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Nicolas Villas.
Là, il m'énerve bien avec François Mardot. Ouais, c'est du domicile extérieur, machin.
Non, de maison.
Recevoir l'avantage de recevoir à domicile.
Domicile et jouer à la maison.
Ouais, et pas à l'extérieur. C'est génial.
Ça, c'est exceptionnel.
C'est extraordinaire. Je vous rappelle les résultats.
Triple house.
De ce samedi, 25e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 face à Toulouse. On va y revenir dans quelques instants. Et on vous attend au 32-16 pour revenir sur cette victoire et ce but de Neymar. 3-2 pour Bordeaux face à Amiens. On était avec Maxime Pungé en direct dans l'after il y a quelques instants. Monaco est allé gagner 4-0 à Angers. Montpellier s'est imposé 1-0 à Metz. Pas de but entre Guingamp et Caen. Dijon a battu Nice 3-2 grâce à un doublé de Julio Tavares qui était en direct avec nous dans l'after. Demain, 15h, Strasbourg 3, 17h. Nantes-Lille et à partir de 20h sur RMC Lyon face à Rennes. Un petit mot rapide messieurs sur Montpellier qui est 5e provisoirement ce soir en attendant le match entre Nantes et Lille demain. Montpellier qui s'est imposé 1-0 à Metz grâce à un but de Sio. Ils n'ont pas encaissé de but, ça faisait 7 matchs que ça n'arrivait pas. Qu'est-ce que vous avez pensé des Montpelliérains ce soir?
C'est beaucoup plus les Messins. Je suis désolé de t'embêter, hein. Je suis comme ça à contre-pied. C'est beaucoup plus les Messins qui me paraissent maintenant moins solide. Je reviens encore à cette fameuse équipe qui se cherche et quand elle trouve la solution, elle se défonce et dès qu'elle sent qu'elle va mieux, inconsciemment, ouais, elle se relâche et elle oublie les fondamentaux, ce qu'ils faisaient à domicile les Messins. Et du coup, Montpellier, eux, par contre, ils font du Montpellier. C'est-à-dire, ils sont solides, ils se battent sur tous les ballons.
Ils en faisaient plus trop du Montpellier ces derniers
matchs. Oui, mais même si offensivement, ils sont pas exceptionnels, ils ont pas autant d'occasions de but que ça. Et avec une occasion de but, ils ont compris qu'il fallait qu'ils reviennent à l'extérieur. C'est ce qu'ils font bien d'être tout le temps dans les duels et de ne rien lâcher. C'est ce qui leur a permis de gagner 1-0.
Maintenant, cette équipe de Metz qui avait commencé à remonter, on a oublié un petit détail, moi le premier dans un de mes trois points là, parce que je les ai cités, c'est qu'ils en ont pris 6 dans la tronche au Vélodrome la semaine dernière. Ça
attends, il y a eu le match de Coupe de France aussi avec la Panenka de Boulaya qui a pas été convoqué, ouais, en plus par Hans qui voulait le préserver. Ouais. Alors, il avait pas envie que l'attention soit focalisée sur lui.
Au contraire, fais le jouer.
Il parlait du public. Il voulait pas qu'il soit pris en grippe.
Fais le jouer au contraire. Parce que le mec, il attend qu'une chose, c'est de... Si, pour moi, il faut qu'il se rattrape. Et au contraire, quand tu le mets de côté, tu le rattrapes pas,
ça dépend.
Tu l'enfonces.
Alors, en théorie, t'as raison. Après, c'est quelque chose que tu dois voir avec le joueur. Si le gars, il te dit, moi, j'ai besoin d'y retourner tout de suite pour pas cogiter, là, je suis d'accord avec toi. Mais t'en as parfois aussi qui se défilent, ou qui n'assument pas, qui assument mal, et c'est humain.
Il a plus subi qu'autre chose.
Un petit mot également, messieurs, sur Guingamp-Caen. Alors, 0-0 entre les deux équipes. Guingamp-Caen,
très peu d'occasions.
Ouais. Match fermé. Hein.
Je sais pas si t'es fermé
circuler,
ou pas, mais alors.
Circuler, rien
ça,
à
ça
voir.
Pue le match nul. Ça pue le match nul.
Voilà. Pura vida.
On a Guingamp 9e. Voilà, c'est dans le ventre mou les deux. 33 points pour Guingamp. Caen qui est 11e avec 31 points. Caen, c'est une victoire sur les 6 derniers matchs, hein, toutes compétitions confondues. C'est pas beaucoup.
C'est 3-4 buteurs sur toute la saison.
Ouais, on a vu la scène défilée tout à l'heure, c'est assez fort.
Heureusement qu'ils ont gagné ce fameux match avec Da Silva.
Dont l'excellent Damien Da Silva.
C'est pas un record, ça, dans l'histoire du championnat de France pro, quoi.
C'est pas fini comme saison.
Non, mais déjà.
C'est le moins de la saison, ouais, c'est pas beaucoup.
Hein. D'avoir aussi peu de buteurs différents dans un effectif.
Et cet après-midi, eh bien, avait débuté en Ligue 1 par une affiche entre Toulouse et le Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain
s'est imposé 1-0 avec un but de Neymar à la 68e. Il y a eu un milieu terrain à 3. On avait Diarra, Lo Celso, Rabiot titulaire. Une attaque Neymar, Mbappé, Di Maria parce que Cavani n'était pas là. On vous pose cette question. Laurent Fala, notre community manager, vous pose cette question
J'écoute ta question.
Alors, vous pose cette question.
Attention.
Sur le compte Twitter de l'After. Que je n'ai plus. Di Maria doit-il être titulaire face au Real Madrid? Vous êtes 59% à répondre oui.
Eh ben voilà.
C'est ce que j'ai entendu. Doit-il? Tu m'aurais
dit. C'est ce qu'a écrit Laurent Fala.
Oui, parce que Laurent.
Mérite-t-il, vous avez dit.
Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu veux changer dans la phrase?
Je veux rien changer.
Je veux dire mérite-t-il.
Parce qu'au début, il nous a dit au début, mérite-t-il d'être titulaire? Je dirais oui. Doit-il d'être titulaire? Je dirais non. Pour la simple raison que c'est. Bah, je le dis pas.
Autre sondage. Parce que ça concerne.
Il y en a encore un. Dès qu'on lui a dit ça, il a changé.
Non, il y a un autre sondage sur le compte Twitter de l'After, toujours signé Laurent Fala, bien entendu.
Alors,
on sait bien, bien entendu.
Il a changé.
Adrien Rabiot est-il meilleur, milieu relayeur, sa position préférée, ou en tant que sentinelle postée juste devant la défense? Vous êtes 60% à répondre milieu relayeur, messieurs. Alors, parce que la question de la sentinelle, on se l'a posée hier dans l'After. Question sur Di Maria, question sur la sentinelle. Réponse avec Tariq. Il est supporter du Paris Saint-Germain, il nous a appelé au 32-16. Salut Tariq.
Salut, salut l'équipe.
Salut Tariq.
Bienvenue à toi Tariq.
Alors. Merci.
Alors Tariq, on va commencer par parler de Di Maria. Est-ce que tu penses qu'il doit être titulaire face au Real Madrid? On rappelle, le huitième de finale aller dans 4 jours, ce sera Madrid, là où il a joué d'ailleurs.
Alors, moi je suis 100% d'accord avec Ali. Il mérite, oui. Est-ce qu'il doit? Non.
Oh, la subtilité est belle. Hein.
Après, ils ont... Malheureusement, il s'est réveillé trop tard. Il s'est réveillé trop tard, Di Maria. Et tu peux pas enlever ni Mbappé, ni Cavani, ni Neymar. À part, sauf si là, il teste un milieu de terrain à 3, chose que je pense pas. Mais avec Di Maria dans le milieu de terrain à 3.
Tariq, pardon de te couper, puisqu'on parlait de sémantique entre mériter et devoir. Tu peux m'expliquer, toi aussi, de ton côté, par rapport à Di Maria par rapport à ce que Mbappé, Neymar, Cavani ont réalisé, pourquoi aujourd'hui il pourrait pas être titulaire? Pourquoi est-ce qu'il doit pas en fait être titulaire?
Parce que tu sais que déjà par rapport à tout ce qu'on fait Cavani, Mbappé et Neymar depuis le début de saison, ils sont là depuis le début de saison, ils ont toujours répondu présent dans les grands rendez-vous, sauf peut-être match retour du Bayern. Mais là, c'est impossible, c'est quasi impossible d'enlever Mbappé. Il reste encore performant, même s'il a été blessé longuement dernièrement. Mais il reste encore performant.
Mais je pense Cavani, qu'il est performant, tu as raison. Cavani, c'est 4 ou 5 buts, je donnais la stat dans l'émission de la semaine dernière, depuis début décembre. 4 buts sur les 13 derniers matchs.
C'est le seul avançant que t'as.
Il rajoute 5 avec celui de Coupe de France.
C'est le seul avançant que t'as.
Il est un peu émoussé. Trouve que Di Maria en ce moment, Di Maria en ce moment est plus performant que Kylian Mbappé, puisqu'on est sur le poste d'ailier gauche, de droit, pardon.
Il a plus joué, il était blessé Mbappé, il était blessé Kylian.
Suspendu, blessé, certes, mais je trouve que Di Maria est, voilà.
Non, c'est pour ça que j'ai dit.
Non,
mais, t'as raison sur une chose, Tariq, c'est que.
C'est pas le même
Maria,
joueur, c'est pas le même joueur,
Di Maria mérite, sur le côté, mérite d'être titulaire, c'est vrai.
Oui, mais on s'en fout de mériter. Tu le sais, Ali, dans le foot pro, c'est pas une question de mériter.
C'est pour ça que je te dis, non, le trio, pour Emery et pour tout le monde, pour l'équipe, le meilleur trio qu'ils ont offensivement en tant qu'attaquant, c'est Mbappé à droite, c'est Cavani
dans le moment actuel,
même dans ce moment actuel, c'est Cavani avançant parce que tu peux pas mettre quelqu'un d'autre. Neymar, tu ne le changes pas, et Mbappé pour Emery dans les gros matchs, il va faire en ce moment plus mal qu'un Di Maria. C'est surtout ça.
Je peux vous poser une question?
Oui. Vas-y, Tariq.
Est-ce que vous arrivez à comprendre, avec tous les matchs qu'il y a eu de championnat où en gros ils se préparaient limite pour le match du Real Madrid, comment ça se fait que Emery n'a pas tenté un ou deux matchs Di Maria un peu plus bas sur le terrain à la place de soit de Rabiot en milieu relayeur ou alors soit de Lo Celso? Comment ça se fait moi je comprends pas, j'arrive pas à comprendre.
Mais peut-être parce que c'est surtout parce que à jamais il a peut-être eu les quatre là en ce moment, parce que la dernière fois qu'on a eu à la fois Cavani, je veux dire Neymar et Mbappé, ça fait quand même depuis je crois décembre ou fin novembre.
Mais tu veux le voir où toi, Tariq? Relayeur, c'est ça,
le troisième,
avec le Real,
comme il avait joué à la deuxième partie de saison quand ils ont gagné la Ligue des Champions avec Ancelotti. Au moins le tester.
C'est peut-être de la gestion d'effectifs, il vient de recruter un nouveau milieu.
Verratti, Rabiot, Di Maria, ça serait ça quoi.
Ouais, voilà.
Mais la saison dernière, il avait pas joué là de temps en temps.
Ouais, mais ça n'est pas. Mais attends, on va faire jouer Di Maria comme on fait jouer Pastore Draxler dans des matchs, on va dire, quand je dis normaux, pas les gros matchs, mais dans les gros matchs, Emery, il va vouloir jouer avec trois joueurs qui sont censés récupérer le ballon. C'est plus fort que lui. Donc ça sera du Rabiot, ça sera du Verratti, ça sera peut-être du Lassana Diarra. Mais ça sera un joueur à vocation qui va.
Bon,
Costa Rica. Ça sera ça.
Ou Lo Celso. Surtout pas Lassana. Ça se discute beaucoup, Tariq, surtout pas Lassana. Parce que la vraie question par rapport à Lassana Diarra, je te le dis, c'est le rythme. Et c'est pas le rythme qu'on a vu cet après-midi, pour le coup, les Toulousains, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'était un
Le rythme, tu l'as en jouant des matchs. En jouant plusieurs matchs.
Et là, le rythme, il va monter de 15 crans par rapport à mercredi soir, je ne sais pas s'il sera au point.
Puisque Tariq t'aborde la question de la sentinelle, on avait commencé à ouvrir le dossier hier dans l'after. Unai Emery a expliqué qu'il y en a un, en tout cas, qui jouerait certainement pas ce match face au Real Madrid, titulaire en tant que sentinelle. C'est Thiago Motta. Et il a expliqué pourquoi. On va l'écouter, l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
Bon courage.
Dans quelques instants.
Bonsoir.
Jérôme Thomas, il est en train de mouliner. En fait, il l'appelle.
Bon, alors si on peut rester sur la question de Di Maria.
T'es prêt ou pas?
Il est prêt. Bonsoir.
Pour nous. Après, il est passé première 3 mois d'une blessure. Il a commencé à entraîner juste la semaine passée, le dimanche, avec les groupes. Je crois qu'il va récupérer les stats physiques. J'ai parlé avec lui de dire que pour le mercredi, c'est plutôt pour un match avec l'intensité que sûr qu'on va demander les matchs pour les deux équipes. Pour il va venir après beaucoup de matchs et nous avons besoin de lui. Mais pour les matchs de mercredi, c'est plutôt.
Tariq, c'est trop tôt, hein. C'est pas plutôt.
Oui,
hein.
C'est
pas plutôt le chien, c'est trop tôt.
Ouais, ouais. Tariq, tu veux qui toi en sentinelle pour ce match face au Real Madrid?
Rabiot, qu'il le veuille ou pas, tu lui dis tu joues là et tu t'es et tu voilà, tu joues.
Mais je pense qu'il le ferait, hein, Tariq, pour un match comme ça, je pense que Rabiot le ferait.
Oui, je pense aussi.
Peut-être pas tout le temps, mais pour un match comme ça, oui.
Pour rechigner ou quoi, oui, je pense qu'il le ferait. Et moi, je pense, contrairement à votre sondage, que c'est là où il est le mieux.
En sentinelle?
Ouais, en sentinelle, il met de l'impact, il récupère des ballons, il est dur sur l'homme aussi, il a beaucoup progressé par rapport à ça.
Ouais, il y a 40%, il y a près de 5000 votes, hein, 40% des gens répondent sentinelle contre 60% relayeur.
Tu sais quand même, là, c'est vraiment un débat qu'on a entre tel caviar et tel autre caviar. Hein,
bah oui, mais en même temps, qualité de joueur. Oui, mais en même temps, si tu vas atteindre la crème
niveau,
de la crème et le caviar.
Après, c'est des profils différents.
Ouais.
Voilà. En parlant de deux.
En parlant de Rabiot, Diarra. Je trouve que je suis d'accord avec ce milieu à trois, avec en sentinelle Adrien Rabiot, et puis il a raison Tariq, même si ça le fait chier, mais ça va pas le faire chier. Oh, tu joues en huitième de finale contre le Real Madrid, tu vas pas faire la gueule là-dessus, sinon on dégage. Ouais. Donc ça va pas le faire chier. Et après, par rapport à cette question de rythme, je pense que ça correspond mieux, plus aux qualités de la Sana Diarra qui est en train de revenir, et puis bon, ben Verratti qui est indiscutable.
En fait, la question se pose plus sur Draxler ou pas Draxler.
Draxler, si c'est pour se faire bouger par Kroos, Casemiro, ce qui sera le cas.
Tu penses qu'il va jouer avec qui alors? Avec Lo Celso? S'il joue avec Rabiot et Verratti.
Le milieu dans la réalité,
ça sera quoi?
Voilà, moi, dans le jeu du masturbation, là, de.
Ouais, ouais. Non,
je suis pas Emery. Moi, je suis Manardo et je vais te dire qu'est-ce qu'il va faire. Je pense que c'est Diarra en sentinelle parce qu'il va vouloir jouer la carte de l'expérience et il va mettre Rabiot et Verratti. Et je pense que Diarra sera un peu dépassé par le rythme mercredi soir.
Allez, tu vois quoi, toi?
Moi, je suis pas sûr qu'il fasse jouer Diarra, mais qu'il fasse jouer Lo Celso.
Il a été très élogieux vis-à-vis de Lo Celso.
Ah non, mais je sais,
sauf qu'on connaît pas.
Il a dit j'ai confiance en lui.
À ce niveau de compétition où l'oxygène est encore plus rare, on n'a pas de repère, de marqueur.
Tu sais pourquoi, François? Tu sais pourquoi? Parce que ce trio, Verratti, Rabiot, Lo Celso, c'est le milieu de terrain qui a le plus joué, je crois que c'est 15 derniers matchs. Ouais. Et ces trois joueurs maintenant, avec Lo Celso. Non, mais chacun prend son tour à faire la sentinelle et le milieu relayeur.
Oui, c'est un triangle avec la pointe.
Ton milieu, toi?
Qui bouge?
Comment?
Ton milieu, quel milieu t'aimerais, toi, justement, face au Real, alors? Rabiot en sentinelle, j'ai bien compris.
Rabiot en sentinelle, Verratti.
Et Pastore?
Pastore, parce que dans les grands matchs, il est toujours là. Je pense qu'il est en forme, il a pas de problème physique ou quoi. Dans un grand match comme ça, je pense qu'il répondrait présent. Moi, je le mettrais.
Après, pour reprendre.
Parce que Lo Celso, c'est encore un. Carré. On l'a vu contre Lyon, il s'est fait bouger un petit peu. Je le trouve encore. Un peu fébrile au niveau de l'impact.
Tariq, puisqu'on a parlé un peu de sémantique, à un moment donné, faut-il mériter, doit-il, etc. Moi, j'ai parlé de masturbation intellectuelle. Mm-hmm. Sur ce triangle, la sentinelle, elle peut évoluer. C'est-à-dire que si tu prends un triangle avec la pointe inversée, tu bascules un joueur à l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est Rabiot qui joue la sentinelle. Après, c'est Diarra. Peut-être à un moment, Verratti s'intercale. Il faut que t'en aies deux qui soit devant ou deux qui soient derrière la pointe du triangle, un coup elle est en bas, un coup elle est en haut. Ça dépend de l'animation et de la physionomie du match mercredi soir.
Tariq, merci de nous avoir appelé.
Je t'ai pas oublié Tariq, je t'ai promis que je t'amènerai au stade avant la fin de la saison.
Ah, t'as de la mémoire.
J'ai de la mémoire.
Je suis à Bagnolet.
D'accord, ok.
Tu viendras
en Bagnolet.
Il viendra te chercher en plus.
Il est loin du parc.
Il viendra te chercher, tu iras le chercher.
En Bagnolet.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Oui, donc c'est pas figé le coup de la sentinelle.
Bonne soirée, Tariq.
Salut Tariq.
On est en train de parler avec Tariq.
Non mais j'emmerde rien du tout. C'était intéressant d'en parler avec Tariq. C'est pas figé l'histoire. Voilà, c'est parce que t'es sentinelle au coup d'envoi que tu vas le rester à 90 minutes.
Mais est-ce qu'il n'est pas capable de nous mettre Alves au milieu terrain, le Emery?
Messieurs, le débat n'est pas fini puisque Abdou, supporter du Paris Saint-Germain, est avec nous. Il nous a appelé au 32-16 lui aussi. Salut Abdou.
Salut Abdou.
Salut Nico. Salut Ali. Salut François.
Salut Abdou.
Alors Abdou, on va reprendre les débats dans l'ordre.
Ouais.
Di Maria titulaire ou pas face au Real? dans 4 jours.
Ben, je vais vous donner mon opinion, parce que je passe de temps en temps l'after, parce que j'ai une académie de foot ici à Valencia, donc je vous appelle depuis l'Espagne.
Ah, génial!
Donc, avec le FC Valencia et les Ventés, donc je connais un petit peu, j'ai suivi un petit peu, je connais un peu la Liga, parce que justement, je la suis au quotidien. Et j'étais aux deux derniers matchs du Real Madrid, juste avant la Real Sociedad, donc en l'occurrence, le match de Valencia, donc perdu 4-1 à Mestalla. Et le dernier match de la semaine dernière, donc samedi dernier, le 2 partout à l'Evante. Donc je vais vous donner mon opinion. Moi, pour moi, je pense que le Fideo, il doit jouer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une expérience. Le Fideo, c'est le Di Maria. Pourquoi ? Parce qu'il y a une expérience, justement, déjà du Real Madrid, de l'ambiance qu'il y a au Bernabéu. Parce qu'il faut savoir que c'est une ambiance un peu particulière. Après, pour revenir au... Ça, c'est le seul point où j'étais en désaccord avec Ali. Par contre, je le rejoins sur un peu sur la composition du milieu de terrain. Mais j'ai mis un doute. Je vais vous expliquer pourquoi. Bah pour une simple bonne raison que quand on voit qu'il y a un milieu qui met de l'impact physiquement, donc on a eu le coup au départ avec nous quand on a perdu 4-1 ici, donc Valencia contre Real Madrid, mais il y avait Kondogbia qui avait fait une première partie exceptionnelle, c'est-à-dire que vraiment avec Parejo, il s'en était sorti et vraiment il y avait un gros impact physique. Et à Valencia, le deuxième match de Levante, par contre, de Levante, le 2 partout de la semaine dernière, il y avait eu Doucouré. Donc moi, je pense que quand même, il faudra un peu manier donc des joueurs de ballon et avec
et le
un
bateau.
Joueur qui va vraiment à la patte. Parce que Doucouré, je peux vous dire une chose, hein. Avec le Partido, il a fait le match de sa vie, quoi.
Et il est où et le joueur qui va à l'impact côté Paris? Verratti, Diarra dépassé. Et avec Casemiro et Kroos, c'est ce que je disais en début d'émission, je trouve, Adou, que le Real a un certain avantage par rapport au milieu parisien.
Ah non, mais ça c'est clair, mais attention. Modric et Kroos, c'est du lourd quand même.
Bah oui, Casemiro, non mais les trois.
C'est du haut niveau.
Les trois, ils n'auront pas de problème, je vous trouve.
Est-ce que le jeu, c'est pas d'avoir des joueurs qui jouent plus au ballon que des joueurs qui...
Les deux, Ali, à ce niveau-là.
Non mais ça, je sais. Mais là, le Paris Saint-Germain, est-ce que c'est vrai que d'avoir à la fois Rabiot et Verratti, c'est bien, et d'avoir peut-être un Di Maria qui tourne à droite à gauche et qui va les embrouiller au milieu?
Moi, je pense... Par contre, je te rejoins, Ali. Je pense que ça peut être une bonne option.
Ça va les gêner, hein.
Ouais, mais ils auraient dû.
Là, j'ai regardé le match de la Real Sociedad, là, qui a été diffusé,
ils sont pas trop bons, la Real Sociedad, cette année.
Ils sont pas très bons, mais justement, je pense que là, par contre, ça, c'est quelque chose que je voulais dire la dernière fois quand j'étais avec Daniel. Mm-hmm. Et ça, je peux vous assurer que je pense que c'est l'analyse, donc je pense que si Fred, il nous rejoint,
il sera là tout à l'heure, on va revenir. Le Real qui a gagné 5-2 face à la Real Sociedad, triplé de Cristiano, Kroos et Lucas Vazquez.
Mais faut pas oublier qu'au milieu de terrain, il y avait Xavi Pireto. Et Xavi Pireto, il y a au moins 36-37 ans. Il faut savoir que c'est un bon joueur de ballon, mais physiquement, au niveau de l'impact, Modric et Kroos, ils faisaient ce qu'ils voulaient un petit peu au milieu de terrain. Mais je peux vous assurer, que si le Paris Saint-Germain sort avec le coup de chiot, donc avec le couteau entre les dents, et que vraiment ils mettent de l'impact physique au milieu de terrain, et ben de toute façon, ce match-là, il va jouer au milieu de terrain. C'est clair et net. Parce que Levante, qui est une équipe quand même qui est 17e du championnat, je peux vous assurer, à la Ciudad Vela,
ils auront mis la pression
énorme. Et les gens, ils décrivaient comme ça, comme quoi que le Real Madrid aurait pu gagner 2-1. Et je vais même aller même plus loin. Le match de Valence, c'est pas pour défendre le FC Valence, mais ça a été une anomalie. Parce que Valence perd 4-1.
Mais dans les derniers moments.
Donc en coupe, donc une prolongation et les pénalties, donc contre Alavés. Et Madrid est arrivé frais parce que justement, ils avaient leurs joueurs qui n'avaient pas joué en Coupe du Roi. Parce que justement, Zidane avait fait tourner. Mais je peux vous assurer que le début de match, il n'y a pas les deux pénalties sifflées pour Valence. C'est pas du tout le même match.
Bon.
Ça, je peux vous assurer.
Il y a une question qu'on a oubliée aussi par rapport, on a parlé à Di Maria, Mbappé. Thomas Meunier, Dani Alves.
La question des latéraux.
Alves. Il fera jouer Alves.
Non, mais après le match de cet après-midi.
Et tu dis quoi, toi, du coup?
Thomas Meunier, pour moi, en ce moment. Ouais.
C'est vrai qu'il n'a pas fait un gros match, Daniel. Merci Abdou qui nous a appelé.
Merci Abdou.
On sera avec Fred Hermel dans quelques instants, bien entendu. Tiens, je vous donne quelques infos également. C'est vrai que Steve Mandanda, hier, est sorti blessé lors du match nul.
Alors,
l'Olympique de Marseille à Saint-Etienne, il sera out 2 semaines. Il est touché aux ischios. Il a une déchirure. Il souffre d'une déchirure, le portier de l'Olympique de Marseille. Et le club a donc expliqué aujourd'hui. Oui. et on l'a revu.
Attends, un déchireur que de ça.
Ah oui, mais
ouais, c'est ce qu'annonce le club en tout cas. Il y a eu un communiqué de presse qui a été balancé. Demain à partir de 20h sur RMC, Lyon-Rennes, l'OL qui reste sur deux défaites en Ligue 1 contre Bordeaux et Monaco. Il y a une absence marquante côté lyonnais. Le groupe a été donné, c'est Raphaël et à Rennes. Diallo et Ball sont blessés, André est suspendu et c'est tombé aujourd'hui. Johan Gourcuff est malade. Voilà.
Ah bah, c'est pas tant ça que d'être blessé, hein.
C'est normal.
Et puis on vous rappelle les résultats de cette 25e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 à Toulouse. Dijon a battu Nice 3-2. Bordeaux a battu Amiens 3-2. Victoire de Montpellier à Metz 1-0. Monaco est allé gagner 4-0 à Angers. Guingamp-Caen 0-0. Tiens, demain, il y a le tournoi des Six Nations également de rugby. Écosse-France, c'est demain à 16h sur RMC. RMC, la radio officielle et partenaire de l'équipe de France Olympique et des Jeux Olympiques Pyeongchang 2018. Et l'after revient dans quelques instants. On sera avec Simone Rovera. On va parler d'Espagne et du Real Madrid avec Fernermel. On parlera de Serie A avec Simone Rovera. Et on sera également en Angleterre avec Philippe Auclair. Tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show. L'after foot, Nicolas Villas.
Et on est dans l'after avec François Malin, avec Ali Benarbia, Simone Robert. Voilà,
Simone.
Tout le monde devient taré dans cette émission, c'est n'importe quoi. Heureusement, je suis là pour apporter un peu de sérieux.
Non, le seul sérieux, c'est Ali Benarbia.
Info importante également, puisque ça vient de tomber. J'ai pas pu mater le match, puisque j'étais avec vous dans l'after, ce qui est un plaisir, bien entendu. Nous sommes champions d'Europe. Le Portugal est champion d'Europe de futsal. Victoire 3-2 face à l'Espagne.
Parabéns.
Bravo. Merci pour votre. Non, mais vous savez que c'est un sport hyper développé dans les pays latins notamment.
Surtout en Espagne.
Et en plus, alors, parallèle avec l'Euro 2016, c'est un tweet qu'on m'a envoyé tout à l'heure. Ricardinho, qui est le meilleur joueur du monde de futsal, il s'est blessé en finale.
Il joue dans quel club?
Comme Ronaldo. Et c'est Payet qui l'a taclé. Non, là, je déconne, mais.
Comme Ronaldo.
Il joue, non, il joue en Asie, je crois d'ailleurs. Il était en Espagne à un moment d'ailleurs.
Moi, je vais découvrir le futsal pour la première fois dans ma vie, là. Dans un mois, il y a la finale de la Ligue des Champions de futsal.
C'est
entre
qui d'ailleurs?
Barcelone et un club madrilène qui s'appelle l'Inter. Non, mais tu pourrais respecter d'autres disciplines.
Le club africain.
Oh,
il joue en Espagne, Ricardo.
L'Inter quelque chose. Je crois qu'il y a l'Inter Madrid contre Barcelone.
Voilà, il joue.
Aidez-nous, aidez-nous.
Non,
si vous intéressez
au c'est l'Inter. Bah, c'est le club de Ricardinho.
Voilà. Ben,
L'Inter FS, ça s'appelle.
Les deux ou
l'Inter Football Sala. C'est l'Inter FS, l'Inter Football Sala. C'est à Madrid, c'est un club de Madrid.
Voilà, l'Inter de Madrid.
C'est là où joue Ricardinho.
Mais ça n'existe pas. Il y a l'Atlético, le Real, même bien l'Inter de Madrid.
L'Inter de Madrid, j'avais
raison. Bref, c'est une honte ça.
Simone, tu es avec nous, Simone, parce que Simone, il y avait un très gros choc en Italie ce soir, match entre le Napoli et la Lazio. On rappelle que la Juve hier s'est imposée 2-0. La Juve était leader, alors temporairement, en attendant ce fameux match entre le Napoli et la Juve, entre le Napoli et la Lazio. La Juve qui s'est imposée 2-0 hier à Florence. Il y a eu un match spectaculaire ce soir entre le Napoli et la Lazio. On l'a pas pu le voir non plus, mais tu vas nous raconter.
On a presque eu deux matchs différents, parce qu'on a eu un premier mi-temps presque dominé physiquement par la Lazio. Qui a mené au score, qui a, à la première occasion, on est passé avec De Vrij. Et après, il a fait un jeu vraiment. Naples était impuissante, il était asphyxié, il n'arrivait pas à développer son jeu. Et on pensait vraiment d'avoir trouvé une clé, encore une fois. C'était un peu comme les matchs allés à Roma, où la Lazio avait mené, était devant, dominé. Après, en deuxième mi-temps, tout a changé. Déjà, il y a un épisode qui est déterminant.
Il y a 4 ans, hein, on rappelle, pour le Napoli.
Pour Naples,
il y a
1-0.
Qu'est-ce que j'ai cette couleur de maillot là, de Naples à domicile?
Je suppose. Lequel?
Là, c'est... Le nouveau bleu, là. C'est pas le bleu ciel?
Ben oui, c'est un peu chargé, mais
ah,
c'est,
pas
on a vu pire, on a vu des.
Oui, on avait vu le. C'était quoi le pétrole, le pétrole.
C'est quoi l'histoire du bleu là?
C'est le bleu de Naples.
Bah oui, c'est le bleu ciel, je comprends pas.
C'est bleu, c'est peut-être un peu chargé.
Ah, il est un peu plus foncé.
Mais parce qu'il sait très bien, Simone. Parce que vous faites pas attention, c'est une honte ça.
Daltonien tous là.
Par contre, ce qui est bizarre, c'est que les deux maillots se ressemblent quand même pas mal.
Exactement.
Ça, par contre, c'est chelou.
Ça, c'est une honte aussi.
Bah là-dessus, quand même, c'est un color céleste. Donc.
Mais ils jouent en blanc. Là, ils ont les
rayures. C'est celui avec.
Non, mais même les chaussettes, c'est blâme bleu.
Bon, bref, vas-y.
Pour revenir, Naples arrive à égaliser presque sur la première occasion, mais à la dernière minute de la première mi-temps. Donc, quand la Lazio pensait avoir les matchs dans sa poche, d'aller quand même à la pause avec un résultat positif, Naples trouve cette but d'égalisation. Et en deuxième mi-temps, tout change. Déjà, il faut dire que Sarri a été expulsé pour des contestations en première mi-temps. Mais comment la Lazio n'est plus sortie de sa surface dans les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps était incroyable. Naples a fait son jeu. Naples a allé à la double vitesse. Naples a dominé. Naples a marqué deux buts en peu chanceux pour arriver sur les trois. Une, c'est un contre son camp. L'autre, c'est une déviation un peu hasardeuse de Zielinski sur une frappe de Mario Rui. Après, il y a le quatrième but.
Il a marqué Mario Rui.
On ne sait pas si on donne les buts à Zielinski.
Vive Portugal.
Après, il faut dire qu'il y a un quatrième but qui va mettre tout le monde d'accord. C'est vraiment une poème du foot de Sarri qui est extraordinaire, avec une talonnade, une longue passe, une feinte de Zielinski, Mertens qui arrive dans la surface, qui touche avec l'extérieur du pied cette ballon pour la mettre au fond du filet. C'était extraordinaire. C'était vraiment la synthèse du football de Sarri, magnifique, efficace. Et il y a une chose de dire de ce Napoli cette année qui est extraordinaire. 8 fois, on était mené au score dans cette saison. Et 7 fois, ils ont gagné.
Ça, c'est beau.
Ça, c'est énorme. Dernière, ça veut dire que mentalement, les mecs, ils sont là.
Est-ce que ça sent que c'est cette année?
Ils ont été menés 10 fois au score, ils ont gagné une.
Voilà.
Tout a changé, c'est une Naples qui est encore plus sérieux, qui croit vraiment en ses titres. On a parlé hier de la blessure de Goulam. C'est aujourd'hui, toute l'équipe est rentrée sur le terrain avec les maillots de Goulam. Après les buts de 2-1. Qui c'était en contre son camp, je l'ai dit, mais Insigne est allé voir la caméra, elle fait les signes 31 comme le maillot de Goulam. À la fin du match, tous les joueurs avec encore un maillot de Goulam, et c'est passé beau, devant les supporters. Pour vous dire que le vestiaire est vraiment.
On rappelle que Goulam n'a pas joué depuis le mois de novembre, mais c'était fait les croisés, et là il vient de se faire une fracture de rotule.
Oui, apparemment, pour l'opération qui a été faite, pour réduire un peu les temps de récupération, il y a un type d'opération qui va toucher un peu la rotule, et ça pourrait être la raison pour laquelle elle est un peu plus faible.
D'accord.
La rotule, c'est pas, qu'on peut pas dire, sûr. C'est pas sûr et certain. Expliquer aujourd'hui Naples qu'il y avait une pourcentage très réduite, comme 1-2% des possibilités qu'il y ait un accident sur la rotule, quand même ça s'est passé. C'est que c'est passé. Donc, mais pour vous dire que ces groupes croient vraiment au titre. Et si hier la Juve avait fait une preuve des forces, Naples a fait une preuve des forces et des beautés, qui est un style totalement différent de la Juve, qui est du béton. Là, par contre, c'est du diamant, c'est beau, c'est solide, mais c'est dit beau d'une façon différente. Et l'homme de titre, s'il y aura titre jamais.
Alors justement, mais ce sera qui? Mouille-toi un peu là. Tu vois qui toi, champion cette année?
Moi, je vois encore la Juve.
Ah, quand même.
Moi, je vois encore la Juve parce que.
Parce que c'est pas d'erreur.
Il est intériste.
Tu
vas de l'Inter de partout, toi.
Mais non, mais dis-les des choses vraies, toi.
L'Inter joue la finale des champions.
Non, faut pas le dire qu'il est intériste.
Arrêtez.
Attends, on la coupe. Jérôme, comment on peut couper ou pas?
Ah non, mais il y a l'Inter de Madrid.
Non, coupe, on recommence.
Non, mais qui sera champion, tu penses, toi?
Pour moi, la Juve. Même si Naples est plus beau à voir.
Qui mérite?
C'est le. Et voilà, on
mérite. Ça mérite qu'il y ait des ventes.
J'ai vu jouer la Juve hier, c'est. Bon, c'est très réaliste.
C'est solide.
Ouais,
c'est la Juve.
Comme la Juve,
c'est
une équipe italienne.
C'est sur les 16 derniers matchs.
Très fort,
quelque chose d'extraordinaire. Après, la Juve va jouer au fond de la Ligue des Champions.
Sur les 16 derniers matchs. Ça, c'est
énorme.
Stratosphérique comme ça.
T'as tout compris.
La Juve va jouer au fond de la Ligue des Champions.
T'as tout compris. C'est comme ça que tu gagnes les matchs.
Va jouer au fond de l'Europa League. Donc, c'est vrai que Naples a des avantages. Moi, je ne vois pas encore Naples qui va gagner à Turin. Moi, je pense vraiment que le match.
Mais est-ce qu'ils ont besoin de gagner?
Je pense qu'il y aura
Naples
quand même
devant la Juve là.
Ouais, mais il y aura d'autres. Tu vois aucune des deux équipes perdre des points en cours de route.
C'est pas la Juve. Moi, je la vois pas.
Voilà, sans déconner, vraiment.
Ouais. Elle est tellement supérieure. Hier, la Fiorentina a fait tout ce qu'elle pouvait.
Ouais, mais la Fiorentina n'est pas bien cette année. Si
non, mais pour voir le match d'hier.
C'est pas parce que j'ai un pas violet.
Mais c'était un assaut. Ils les ont assaillis, mais de tous les côtés, à gauche, à droite, dans l'axe. Et t'avais une concentration dans la défense, mais de façon intelligente.
C'est incroyable, pas brouillonne. Je t'ai dit, alors, vas-y, une chose qui m'a tué cette saison. Alors, la Juve gagne face à la Roma.
Bah, c'est que l'Italie soit pas en Coupe du Monde déjà.
Là, ça c'était normal.
La
Juve était à Ligazzo.
Ça, on peut pas le dire.
Non, moi je peux lui dire.
Non, ça, les gens comprennent pas.
La Juve va se gagner à la Roma avec un but de Benatia. La Juve gagne à la Fiorentina avec un but de Bernardeschi.
Que je connais pas.
La Juve gagne à Naples avec un but d'Higuain. Les anciennes marquent contre leur équipe. Il n'y a pas des tremblements des jambes. Quand tu joues à la Juve, t'es solide, t'es plus fort, tu changes de dimension. Benatia, on l'avait presque oublié.
Ouais, mais
aujourd'hui,
alors,
c'est les meilleurs défenseurs de la Juve, presque un des meilleurs en Italie.
Ok, la Juve a l'expérience, mais depuis le temps que le Napoli leur court derrière, ils commencent à l'avoir l'expérience aussi, quand même, non?
Bien sûr.
Bon, bah alors,
mais tu peux pas comparer. J'attends de voir.
Je sais pas, il y a
vraiment
un
moment. J'attends de voir les moments décisifs de la saison, et à mon avis, ça sera Juve.
C'est quand, tu sais ou pas?
Il faut rappeler. c'est encore long.
Non, mais c'est bien parce que.
Non, mais tu sais pas.
Ali, prénom italien d'ailleurs.
Exactement. Dele Alli, t'as vu. Alors, non, pour en revenir à ce que disait Simonet, c'est que Sarri, c'est le beau jeu, le diamant, et la Juve, c'est le réalisme total. Et en général, sur le long pour un championnat, c'est le réalisme qui te fait gagner le championnat beaucoup plus que le beau jeu.
Quatre joueurs de Napoli qui ont terminé les matchs ce soir. Il y a 3 ans, ils jouaient à Empoli avec Sarri. La Juve, quand même, à Higuain, à Pjanic, à Khedira, à Chiellini.
Ils ont du bain.
Montpellier, ils ont été champions de France. Et en face, t'avais des mecs qui avaient été champions, je sais pas où. Ça arrive aussi. Mais alors là,
non,
mais alors en plus, alors je veux dire,
la mentalité.
Mais la comparaison, elle est bidon, parce que le Napoli a plus d'expérience que c'était que l'équipe de Montpellier à l'époque.
Déjà, rien à voir. Et pas le même. Et pas le même budget.
Pas le même budget. Pas cette Juve des ventes. T'avais les premières PSG des Pastore, des Sirigu, de Matuidi.
C'était au début. Oui, c'était au début. C'était pas le PSG de cette année.
Qui était arrivé, je pense, en janvier. C'était pas la même chose. Là, tu parles d'une équipe qui était bâtie pour gagner, qui est la Juve. Moi, j'espère que ça continue parce que c'est extraordinaire ce qu'il y a en Italie. Parce qu'on l'a pas en Espagne, c'est on l'a pas en France, on l'a pas en Allemagne. Oui. Parce qu'il y a deux équipes qui sont totalement différentes, presque un l'opposé de l'autre, avec deux entraîneurs qui ont deux philosophies différentes, qui ont une clash extraordinaire à un rythme énorme.
Je vais faire ton taf.
Merci, grazie.
La date.
Prego, prego. Le 22, enfin, ce sera le week-end du 22 avril, le match entre la Juve et le Napoli, et ce sera à Turin.
À Turin, oui. Bah, ça, bah, on le sait que c'est à Turin.
Le 22 avril, on arrivera peut-être dans le sprint final. À la fin du
Money Time.
Ce sera la 34e journée, donc il en restera 4 derrière.
Un Money Time.
Donc pour moi, c'est on va aller voir là-bas qui va gagner. Sauf si la Juve va très loin en Ligue des Champions, shoot. Je ne vois pas.
Simonet,
ils ont tellement profondeur d'effectifs et des bancs, la Juve aussi.
Non, mais c'est pas ça, Simonet. S'ils ont un point d'avance et qu'ils vont à la Juve et ils font le match nul.
Moi, je pense que la Juve va passer devant. Bah. Moi, je vois la Juve passer devant.
Déjà avant peut-être. Déjà.
Moi, je lui fais confiance à Simonet. Il a tout prédit.
Non, mais c'est un indice.
Vraiment.
Il a dit que l'Italie n'allait pas.
Quand l'Italie était là-haut, il disait de toute façon, ils tiendront pas. Les mecs, ils sont écroulés dans la semaine qui a suivi.
Nico, il y a une question.
De toute façon, tu es
question de culture italienne, d'ADN italien. Quand tu prends la carte de l'Italie et que tu mets la moitié du pays à Rome, que tu regardes le nombre de titres de champion en dessous de Rome et au-dessus, et lui, il est plutôt du dessus de Rome.
Mais moi,
tu vois que quelque part la logique s'impose entre Napoli et la Juve.
Pas la même mentalité.
C'est Juve qui finit champion.
Moi, je nie pas que ça serait magnifique.
Emoji n'est plus là en plus. Hein. Donc, tu vois, c'est vraiment
là,
mérite.
Tu vas sur la préhistoire aujourd'hui.
Ouais, enfin préhistoire.
Il faut pas nier que Naples serait un magnifique, qu'on peut dire, publicité pour le foot italien, l'effet de voir Naples gagner les titres, parce que ça voudrait dire voir quelque chose qu'on n'a plus vu de l'année dernière.
Attends, le Napoli sont plus engagés en Coupe d'Italie là en plus.
Ouais, oui, mais vois, il y a un match à jouer qui est la demi-finale retour. La Juve a déjà gagné à l'extérieur.
Ouais, mais un 0 contre l'Atalanta. Ils sont chiants, l'Atalanta. Ça
ouais,
juste à l'extérieur.
Faut voir. Il faut voir qu'est-ce qui se passe.
Tu la sens la finale Milan-Atalanta ou pas?
Non.
Moi non plus.
Moi, merci, Simonet. Je vois un jeu là-dessus.
Tiens, Milan qui a gagné 4-0 face à Spal ce soir.
Quatrième victoire dans les 5 derniers matchs des championnats. Et Milan, attention, parce que la Lazio a perdu les 3e matchs consécutifs. Et Milan commence, ne le dit pas, mais arrivé de reprendre la 4e place.
Merci beaucoup, Simonet. Dans quelques instants, on va filer en Angleterre. Tu restes là, hein,
bien sûr.
De toute façon, il y a des Italiens partout. Il y a Antonio Conte du côté de Chelsea. Mais qui n'a pas joué, ce sera lundi, 21h, match contre West Brom sur SFR Sport. Dans quelques instants, on sera avec Philippe Auclair. Il y avait le North London Derby. C'est comme ça qu'on dit. Match entre Tottenham et Arsenal. Et c'est Tottenham qui s'est imposé 1-0. On revient sur ce match dans quelques instants avec Philippe Auclair. Et on est en Espagne, bien sûr, dans la foulée avec Adermel.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbi, avec François Manardo, Simone Rovera est également avec nous ce soir. Pourquoi il est venu nous parler ce soir?
Simone Rovera, bien sûr.
T'as imité qui?
Que c'est gars ce soir, c'est venu de l'after.
T'es, je fais. Je tiens un peu quand même ou pas?
C'était qui l'a imité?
Non, je ne le tiens pas, visiblement.
Manardo,
il est en train de fêter là, la victoire.
Du coup, j'ai grosse.
Oh là là,
c'était ça,
pire que moi.
C'était lui?
Pire que
moi. Ah, mais ouais, franchement,
mais pas du tout.
Ça, c'est bien vu dans l'after. Putain, ça va pisser.
Non, mais ça, c'est Nico Allégas qui a
en rubis.
Non.
Bah, si, bah, si. Non, bref, c'est on était avec Simon Léon. Arrête. Oh, non, il faut qu'on travaille maintenant. Faut que t'arrêtes un petit peu, François, s'il te plaît. On est revenu sur la victoire du Napoli face à la Lazio ce soir. Victoire 4-1. Le Napoli qui est leader en série. On file maintenant en Angleterre. Tottenham a battu Arsenal 1-0. Victoire de West Ham face à Brighton 2-0. Everton a battu Palace 3-1. Mangala est sorti sur blessure, touché au genou. Swansea a enchaîné une nouvelle victoire 1-0 face à Burnley. Manchester City a battu Leicester 5-1 avec un quadruplé. Del Kun à Agüero, on a City qui est toujours devant, mais on en a surtout le match qui nous intéresse principalement. On va l'analyser dans quelques instants, tout de suite même, avec Philippe Auclair qui est avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous et bonsoir.
Salut,
à tous.
Salut Philippe. Alors on va commencer par ce Tottenham Arsenal. Philippe, les Gunners qui pouvaient revenir à un point de leur rival en cas de succès, ils sont finalement, ils ont perdu 1-0. Ils sont dans un no man's land à 5 points de Tottenham et ils ont 9 points d'avance sur Burnley. Ils sont là à la 5ème place, là, au milieu de nulle part en fait.
Oui, avec le seul espoir maintenant d'accrocher la Ligue des Champions, c'est un succès en Europa League qui n'est pas gagné nécessairement quand on voit les équipes qui restent dans cette compétition. Quand on voit en plus que leur prochain match, ça va être un déplacement très très compliqué à Östersund, cette équipe suédoise qui monte. On me disait qu'il faisait -21 d'ailleurs à Östersund. Bah,
ça va être
quelque chose d'assez spectaculaire. Et là, en championnat, c'est tout simplement épouvantable. Tu regardes en plus les performances des Gunners à l'extérieur. C'est ça qui doit inquiéter le plus Arsène Wenger, parce que bon, à l'Emirates, les choses se passent plutôt bien. On se souvient que le week-end dernier, il y avait eu cette démonstration face à Everton. Bon, à Everton, il est vrai qu'il y avait connu quelques problèmes. On avait assisté à un match relativement séduisant. Là, à l'extérieur, c'est catastrophique. Je crois maintenant que c'est quelque chose comme 13 points sur 42 qui ont été pris à l'extérieur. Ce qui est un bilan, c'est un bilan d'équipe de seconde moitié de tableau, hein, grosso modo. Et franchement, même si... En toute fin de rencontre, je dis bien en toute fin de rencontre dans le temps additionnel, il y a eu deux occasions, l'une vraiment très très nette pour Alexandre Lacazette. Ça aurait été un déni de justice complet si Tottenham ne l'avait pas emporté. Et sans un Petr Cech en excellente forme et très sollicité en seconde période, ça aurait pu même tourner à quelque chose de plus grave qu'une simple défaite.
Alors, juste Philippe, je te coupe pour qu'on rentre un peu plus dans le détail, mais tu faisais allusion effectivement. Alexandre Lacazette n'a pas été titulaire une fois encore. C'était Aubameyang qui était en pointe de l'attaque. Lacazette, il est rentré en seconde période. Il a eu deux immenses opportunités en toute fin de match et il les a pas marquées, ces deux opportunités. Alexandre Lacazette, il marque pas des points. On est à quelques semaines du début de la Coupe du Monde. C'est compliqué pour lui quand même en ce moment.
Oui, et moi ce qui m'a frappé autant que les gestes loupés, c'était le visage de Lacazette après ce ratage.
Tu l'as trouvé indigné un peu ?
Je l'ai trouvé surtout très mal. J'ai vu le visage de quelqu'un qui était pas bien du tout. Tu peux comprendre un attaquant qui loupe un geste. Oui. Bon, ça arrive, c'est pas la fin du monde. Mais ce que tu voudrais voir, c'est de la rage sur le visage. Là, je lisais pas ça du tout. Je pense pas que c'était ça le sentiment. Je pense que le sentiment qu'il avait, c'était rage. Je viens d'avoir une occasion de montrer ce que je savais faire dans un match hyper important. On peut peut-être sauver un point. Ma reprise passe à 50 mètres au-dessus du but. Enfin, j'exagère un peu. Et la deuxième, je suis dans un angle fermé, certes, mais il y a le moyen de le passer, ce ballon. Et une nouvelle fois, je loupe cette occasion. Et c'est terrible parce qu'il a absolument pas démérité depuis le début de la saison, mais là il a un joueur qui est arrivé qui a coûté plus cher que lui, qui a marqué dès son premier match, qui est un concurrent direct et qui d'évidence va avoir la préférence de Wenger pour les semaines à venir, excepté quand il fera -21 à Östersund, bien évidemment.
Tiens, donc je te propose qu'on l'écoute, Philippe, Arsène Wenger, voilà, qui s'est exprimé à l'issue de ce match. Arsenal s'est incliné cet après-midi 1-0 face à Tottenham. Forcément, il a des regrets, Arsène Wenger.
Je pense qu'il y a beaucoup de regrets en première mi-temps. Il y a eu 3-4 situations de jeu en contre-attaque. On a loupé la dernière passe. À ce niveau-là, c'est pas acceptable. Après, dès qu'ils ont marqué, on a été un peu déstabilisés. Puis ils auraient pu en mettre un ou deux de plus. Puis après, dans les 10 dernières minutes, on aurait pu revenir au score. Mais ça, c'est dans ces matchs-là, il faut utiliser les occasions. On ne les a pas utilisées en première ni en deuxième.
Voilà, forcément. Oui,
je voulais poser une question à Philippe. Depuis quand, après 27 journées, Arsenal se retrouve avec 8 défaites ? C'est quand la dernière fois ?
Alors écoute, je pense qu'il faut remonter peut-être à la première saison d'Arsène.
Ouais.
Ou celle de pas celle avant avec voire même celle avant Bolsoyok, donc après le départ de George Graham. Donc je puis me tromper, hein, mais je pense sincèrement que c'est le plus mauvais classement, enfin le plus mauvais bilan comptable qu'est une équipe d'Arsenal d'Arsène Wenger depuis qu'il est arrivé. À l'époque c'était à Highbury, et c'est donc en 1996. Ça fait un bon bout de temps. Bon, cela dit, hein, il a mis la barre tellement haut que voilà, il peut se passer des choses étonnantes. Mais là, 8 défaites, c'est 45 points seulement, c'est catastrophique pour un club comme celui-là.
Alors, autre match également spectaculaire qui a eu lieu aujourd'hui, Manchester City face à Leicester, victoire 5-1 des Citizens, avec notamment un quadruplé d'Agüero. Il y a Agüero qui a cartonné dans ce match. Ouais, il est extraordinaire.
De Bruyne, combien de passifs de Bruyne?
3.
Voilà, 3.
Énorme.
Alors, il égale d'ailleurs au classement des buteurs, notre ami Agüero, Salah. Il est deuxième meilleur buteur de Premier League, juste derrière Harry Kane. Alors,
lui aussi a marqué, hein, quand même, parce qu'on a parlé d'Arsenal. Mais n'oublions pas que Tottenham a quand même gagné, et qu'Harry Kane a claqué de nouveau son 7e but en 7 matchs contre les Gunners.
Et puis, il est beau, en plus.
Les attentions étaient surtout portées sur ce match entre City et Leicester, sur Riyad Mahrez. Alors, il y a eu son non-transfert d'ailleurs à Manchester City cet hiver. Il s'était pas entraîné, il a finalement repris l'entraînement cette semaine. Il a été convoqué, ce qui était déjà une petite surprise. Il a été dans le groupe sur le banc, ce qui était une autre surprise. Il a même joué d'ailleurs aujourd'hui, Philippe. Hein.
Oui, il est entré en fin de rencontre. Il a pas été mauvais d'ailleurs. Il a eu une très bonne réception de la part du public de l'Etihad, ce qui était assez drôle d'ailleurs, parce qu'il y avait à la fois, c'était du chambrage de la part des supporters de Manchester City, mais bon, qui était un chambrage assez gentil, et puis également des supporters de Leicester qui sont ravis de voir un joueur qui est quand même un joueur de classe internationale rejoindre ce groupe. Et je ne pense pas que la situation soit aussi compliquée à gérer qu'on a bien voulu le dire pour Claude Puel. Je crois que ça a été fait. Il y a eu ce problème, ce clash, c'est vrai. Beaucoup de déception, de frustration de la part du joueur. On sait, ou plutôt on a appris, que Riyad Mahrez avait fait lui-même l'effort d'ailleurs de s'adresser à ses coéquipiers, d'expliquer pourquoi il en est arrivé là, et surtout de les rassurer, de leur dire qu'il serait bien avec eux et qu'il allait tout faire pour ce club de Leicester, au moins jusqu'à la fin de la saison. Je crois qu'il y a eu... Les choses ont été mises à plat avec assez rapidement, et aussi rapidement qu'il le fallait.
Très bien, Philippe. Merci Philippe.
Ben merci à vous.
Merci Philippe.
Et bonne soirée à toi.
Salut Philippe.
Merci Philippe, bonne soirée.
Ciao, voilà. Ciao.
On vous rappelle, hein, victoire donc de Tottenham 1-0 face à Arsenal, et victoire 5-1 de Manchester City face à Leicester.
Je vous conseille de regarder les passes de De Bruyne avant, au moment où il contrôle et jusqu'à la fin, c'est exceptionnel.
Ouais.
Magnifique.
Ouais.
Et la frappe d'Agüero, la dernière.
Et c'est quand même chaud, hein, pour Arsenal là, cette saison. C'est vrai que
le 8 défaites là. Ouais. C'est la première. Je crois que Wenger ne l'a jamais eu.
Messieurs, on file maintenant en Espagne, on va retrouver Fred Hermel, et on est en direct avec David Surutuza.
David Surutuza, joueur franco-espagnol, sa maman est française de la Real Sociedad, et donc il n'a pas beaucoup de temps, il doit prendre le bus, mais il va nous dire un petit bonjour et nous parler un petit peu de ce match, ok? Je vous passe David Surutuza.
Merci beaucoup, merci, bonsoir David, merci d'être avec nous en direct dans l'After, David.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, ça a été compliqué ce soir pour la Real Sociedad face au Real Madrid, on rappelle victoire 5-1 du Real Madrid. Hein.
5-2,
mais... pardon.
C'est pas mal. Mais...
C'est pour voir si vous avez suivi le match.
Oui, j'ai suivi, oui. Bon, c'était compliqué, très compliqué. Parce que, bon, l'idée, c'était les premières minutes, pas recevoir de but. Et bon,
ils nous ont marqué. Oui, ça craquait.
Oui, ça craquait. Et après, bon, l'équipe est tombée. On n'était pas bien. On avait la balle, mais on n'en faisait pas d'occasion. Et eux, chaque fois qu'ils prenaient, c'était des avions.
Alors, David, dans 4 jours, il y a le match du Paris Saint-Germain face au Real Madrid, ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Vous pensez que c'est jouable ou pas pour le Paris Saint-Germain? Vous les sentez prenables, ces Madrilènes?
Bien sûr, pourquoi pas. C'est deux styles assez égaux. Les deux, ils jouent avec beaucoup de profondité. Devant les trois joueurs qui vont, les trois attaquants, ils ont beaucoup de puissance, beaucoup de qualité. Et c'est très physique. Et je pense que, bien sûr, pourquoi pas.
Sur quoi doit insister le Paris Saint-Germain justement pour contrer cette équipe du Real Madrid?
Est-ce qu'ils ont des faiblesses?
Ouais, c'est quoi leur faiblesse?
Si je savais, on aurait fait un meilleur match. Mais je sais pas. C'est vrai que c'est une équipe que ils jouent beaucoup un contre un, et c'est là que Paris, avec ses qualités, ils peuvent faire beaucoup de mal avec Neymar, Cavani et Mbappé.
Est-ce que on a parlé de contact physique, est-ce que par des moments vous avez pu leur mettre la pression physique, est-ce que ils avaient du mal à répondre ou pas physiquement dans les duels?
Non, Real Madrid à Barcelone, c'est un autre monde. Je veux dire, le Real, c'est un jeu très physique, ils sont très rapides, très costauds. Et le Barça, il te gagne plus pour le talent, la balle, et c'est un autre style. Mais physiquement, ils sont très costauds, et on a un par un, ben, ils sont meilleurs physiquement que nous.
David Souloutou, c'est vrai que Fred Hermel nous le disait il y a quelques instants, vous n'êtes pas forcément très connu ici du grand public en France. On vous voit quand en Ligue 1, David, alors?
Bah, je sais pas, quand vous m'invitez.
Moi, j'ai pas de club, David. Je veux bien t'embaucher, mais j'ai pas de club à t'offrir.
Bien sûr. Bon, je dois partir.
Pas de soucis. Merci d'avoir été avec nous, David.
Merci, bonne chance.
Allez, merci, ciao. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée, David.
Merci, David. Bonjour. Tiens, la vie, hasta luego.
Ça va, allô. J'aurais dû parler espagnol, toi.
Oui.
Hasta luego.
Ça va, Fredo?
Oui, David, tout ça, sa maman, elle est prof dans un lycée de Bayonne.
Il est né à Rochefort d'ailleurs, regarde.
Exactement. Bah voilà, il vous l'a expliqué. On a vu une belle version du Real Madrid, très bien physiquement. Et pareil, ils étaient comme des avions. C'est vrai que le Real Madrid ce soir a offert un autre visage que celui qu'on a vu ces dernières semaines, notamment en première période. Zizou avait réclamé une entrée de match puissante. Ils ont beaucoup travaillé l'entraînement cette semaine, l'intensité, la résistance. Et c'est vrai qu'ils ont répondu à... Ils ont suivi les ordres du coach. Parce qu'ils ont pris la gorge tout de suite. Et je peux vous assurer que Unai Emery doit s'attendre à un début de match mercredi, comme le Real l'a fait ce soir face à la Real Sociedad.
Il a fait tourner Zizou ou pas ce soir, Fredo?
À peine. D'accord. À peine tourné. Simplement, il a laissé Nacho sur le banc. Nacho qui va jouer à la place de Carvajal en latéral droit. Il a fait entrer Bale en fin de rencontre. Il avait mis d'entrée Asensio et Lucas Vázquez. Asensio et Lucas Vázquez qui sont en général et qui seront, si besoin, mercredi soir, les deux premiers changements de Zidane. Donc on était très proche ce soir de l'équipe qui va jouer contre le PSG. Et surtout, il faut citer un joueur qui, comme par hasard, revient en forme au bon moment. Il n'avait pas marqué de hat-trick cette saison. Et comme par hasard, ce triplé est venu ce soir. Je parle bien entendu du quintuple ballon d'or France Football de Cristiano Ronaldo. Je peux vous assurer que depuis le stade, il dégage une puissance et une vitesse qu'on avait rarement vu cette saison.
Et Karim Benzema, il a été comment, Fredo?
Alors, il a fait un gros travail au niveau du pressing, c'est-à-dire qu'il a beaucoup gêné les sorties de ballon, et notamment sur le gardien. Il a été assez bon dans le jeu, très en jambes. Malheureusement, il a touché le poteau, il a manqué une occasion en fin de rencontre, et il a de nouveau subi les sifflets d'une partie du public. Mais bon, ça va pas changer l'idée de Zidane. Karim Benzema sera titulaire mercredi soir au sein de la BBC contre le PSG. Zizou disait qu'il n'avait pas d'explication à ce problème d'efficacité de Benzema, et que dès que ça allait démarrer, il augurait une belle période pour Benzema. Donc ici à Madrid, on espère que ça commencera contre le PSG mercredi. Mais Karim Benzema qui a vraiment été très respectueux lui aussi des consignes du coach, et qui a beaucoup couru et qui a beaucoup travaillé sur le pressing très très haut.
Tu vois quoi comme compo dans 4 jours face au Paris Saint-Germain, Fred?
Ah ben, sauf surprise mais incroyable, bien sûr Navas dans les buts.
Carvajal
est suspendu, donc ce sera Nacho. Nacho, Varane, Ramos, Marcelo. Modric, Casemiro, Kroos et la BBC devant. Casemiro qui est le joueur qui a le plus joué cette saison et qui logiquement est resté sur le banc ce soir pour être en forme pour mercredi, quoi. Donc voilà, le Real Madrid, je vais pas vous dire qu'il est guéri, parce que je vous disais ça il y a 15 jours contre Valence, et ils ont perdu la semaine dernière ils ont fait match nul contre Levante. Mais on a vu ce soir que physiquement ils étaient bien, que dans la tête ils avaient besoin d'un match comme celui ce soir, et que l'intensité, ils peuvent la mettre. Là ils l'ont mis 45 minutes, après en deuxième période ils se prennent deux buts. Ramos reconnaissait que ils avaient quand même un peu le match du PSG dans la tête, et qu'ils ont un peu géré leurs efforts, mais on sent que le Real Madrid a encore quelque chose à dire cette saison.
Non mais clairement, mais Fred, évidemment sur le papier c'est équilibré pour mercredi soir, on le sait. Maintenant quand tu vois le match de cet après-midi de Paris dans la préparation quand même du match contre le Real et celui du Real ce soir contre la Real Sociedad, je trouve que les Madrilènes ils commencent à montrer physiquement que oui, comme l'a dit le joueur de la Real, c'est les avions.
Bah après ce qui est intéressant, ils les prennent comment leur but, le Real, parce qu'ils prennent deux buts face à la Real Sociedad qui est pas
top. C'est des relâchements défensifs, ce qui a été très fréquent cette saison. Ils ont des lapsus défensifs. Et c'est ça qui inquiète Zizou.
Voilà.
Mais Ramos l'explique par le fait qu'ils ont relâché parce que ils pensent à garder les forces pour le PSG.
C'est un match de la saison.
Mais Fred,
il a dit, on joue notre saison mercredi.
Par contre, Fred, ça peut leur arriver, ce relâchement, des fois, même si c'est.
Oui.
Face au Paris Saint-Germain.
Dire que Paris est capable de leur planter un but, voire plus.
Oui, c'est sûr.
Mais on le sait tous. Ils ont sans doute le meilleur trio d'attaquants.
Mais par contre, l'intensité.
Dans le monde même.
Le problème, moi, je suis sûr que.
C'est physiquement que.
Au niveau d'intensité physique, j'ai peur que si le Real Madrid commence bien et marque les premiers, que le PSG ait du mal. Six ans, s'ils commencent à marquer les premiers, les Madrilènes, et qu'ils mettent cette intensité.
Par rapport à cette intensité-là, on en a parlé hier soir.
On n'a pas l'habitude de PSG.
Mais Thomas Meunier, je le trouve là. Plus apte que Dani Alves. Et ça va être très important, hein, parce que Fred nous parle de la BBC qui revient. Bon, alors, Bale, de toute façon, qui que tu lui mettes de son côté, que ce soit Courtois ou Berchiche, un Bale en forme aura largement, sensiblement l'avantage. En revanche, je pense que Meunier est un peu plus apte que
les latéraux face à Ronaldo et Bale. Nos latéraux ne sont pas au top. Est-ce que ça va pas être un gros souci?
Mais bien sûr que c'est un souci.
Bah oui,
mais
c'est un souci.
Moi, bon, le seul joueur dans la défense parisienne.
Même en étant bon, j'aurais des problèmes.
Au top, et c'est Marquinhos, et derrière, c'est pas Thiago Silva dans l'immédiat. C'est Kimpembe.
Fredo, un petit mot s'il te plaît sur l'Atlético de Madrid et sur Griezmann, alors qu'il a marqué le seul but de la victoire des Colchoneros face à Malaga.
Et ben
il revient Griezmann bien là, hein. Je regardais 4 buts sur les 5 derniers matchs.
Ben rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière. Ben j'en parlais dans l'after déjà lundi et lundi d'avant. Griezmann sait qu'il va partir de l'Atlético en fin de saison, mais il fait le boulot. Il est très bon dans le jeu, il est très actif, il se défonce. Et donc c'est un joueur dans une logique compétitive qui arrivera à la Coupe du Monde. Enfin, il va pas lâcher la saison alors que a priori il a plus grand chose à espérer de l'Atlético. Non, Griezmann est un grand professionnel qui est dans une attitude exemplaire pour son équipe et j'insiste, très bon augure pour l'équipe de France en fin de saison.
Merci Fredo d'avoir été avec nous.
Merci Fredo. Salut
Fred. Et puis on va remercier Soulou tout ça. Et les gens de la Real Sociedad.
Merci pour ce petit cadeau.
Parce qu'ils ont l'avion à minuit et demi les gens de la Real Sociedad ont été adorables avec nous. C'est assez peu fréquent dans les clubs de football aujourd'hui pour remercier ce club qui.
C'est que tu as fait du bon boulot, Fred. Voilà,
Non, mais c'est vrai que lui a été sympa, mais que les dirigeants qui étaient là ont été très sympathiques avec nous aussi. Ils étaient ravis, ils connaissaient très bien RMC. Ils étaient ravis que leurs joueurs soient sur notre antenne.
Merci beaucoup, mon Fredo. Bonne soirée à toi. Tiens, et petite info également. Sachez que Villarreal, qui sera l'adversaire de l'Olympique Lyonnais en Ligue Europa, et bien a perdu face à Leganés. Deuxième défaite de suite pour Villarreal en Liga. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, c'est parti sur RMC, vous le savez. Demain, il y a l'intégrale Pyeongchang dès 6h du matin sur RMC avec la Dream Team RMC Sport, Nathalie Péchala, Marchand-Harvier, Sandrine Bailly, Jean-Luc Crétier et Sébastien Amier. Un débat dans les GG du sport à 11h. Quels doivent être les objectifs de Martin Fourcade sur ces Jeux? L'entrée en liste de Martin Fourcade, le porte-drapeau de l'équipe de France, c'est demain à partir de 12h15 avec le sprint 10 km de biathlon. Les Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018, c'est jusqu'au 25 février sur RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018 et de l'équipe de France Olympique. Merci.
Merci les amis.
Qui était dans une
merci
forme olympique, tout comme Ali Benarbia.
Merci Ali Benarbia.
Simone. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. On se retrouve demain à partir de 20h. Lyon-Rennes. Bisous, à demain. Ciao.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot.